Les quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz aux éditions Jouvence. Ce livre est un best-seller. Peut-être l'avez-vous déjà lu. Et pourtant, je vous mets au défi de me citer de mémoire les quatre accords Toltec. Lire et appliquer ce résumé est donc loin d'être un luxe. Quoi que l'on pense du parcours pour le moins atypique de l'auteur, il faut reconnaître que son œuvre est un modèle de simplicité, de clarté et d'efficacité. Son ouvrage fait partie de ceux qui déroutent, car, d'un côté, le texte est d'une extrême simplicité, mais d'un autre côté, le message est très puissant. Loin d'être ésotérique, contrairement à ce que laissent penser les premiers paragraphes, ce livre est au contraire très concret et son contenu applicable au quotidien, pour notre plus grand bien. En fait, ce livre n'apporte rien, c'est l'inverse. Il nous débarrasse de choses qui sont en nous, mais qui, sans que nous en soyons conscients, nous tirent vers le bas. Il s'agit de passer avec nous-mêmes quatre accords, quatre contrats en quelque sorte. Si vous êtes prêt à signer, foncez. Enfin, je me permets un conseil. Comme toujours, à la fin de ce résumé, se trouvent les idées à retenir. Notez ces idées dans votre téléphone et relisez-les chaque matin. Je vous assure, faites-le ne serait-ce que durant une semaine et vous verrez. Biographie de l'auteur. L'auteur, Miguel Ángel Ruiz, est né en 1952 au Mexique, dans une famille de chamans, des guérisseurs. Il poursuit des études de médecine pour devenir neurochirurgien, mais une expérience de mort imminente transforme sa vie dans les années 1970. Cette expérience l'amène à se poser 1000 questions sur le sens de sa vie et sur sa spiritualité. Il part alors en quête de solutions qui le permettront de rendre sa vie plus épanouissante qu'elle ne l'avait été jusque-là. Décidé à tout mettre en œuvre pour trouver des réponses à ses questions existentielles, il décide alors de s'intéresser à ses ancêtres toltèques. La culture toltèque s'est développée près de Tula, au Mexique. Le terme toltec signifie maître bâtisseur. Le peuple toltèque a été particulièrement puissant entre le Xe et le XIIe siècle. Il a fini par disparaître, mais a continué à fasciner notamment le peuple aztèque qui se targue d'être son descendant. Les Toltecs étaient considérés comme des sages, très croyants. Ils étaient également de grands penseurs et de talentueux artistes. Après plusieurs années de formation, Miguel Ruiz devient chaman. Un chaman est une personne qui se présente comme un intermédiaire entre la nature et les hommes. Il est une sorte de sage qui interprète les signes des esprits de la nature et les communique aux êtres humains. C'est également quelqu'un qui est considéré comme un guérisseur, aussi bien du corps que de l'âme. Miguel Ángel Ruiz décide de transmettre au plus grand nombre la sagesse acquise pendant toutes ses années d'études de chaman. Pour communiquer son message, il rédige les quatre accords Toltec. L'apparition de ce livre en 1997 interpelle la célèbre présentatrice Oprah Winfrey. Elle contribuera grandement au succès de son ouvrage en invitant l'auteur dans son émission. Une émission qui connaît un tel succès d'audience que cela permettra de faire s'envoler les ventes de Miguel Ruiz. Résumé. Don Miguel Ruiz commence son livre en nous expliquant qui sont exactement les Toltecs et il utilise pour cela une image pour expliquer sa vision de l'univers. Il y a 3000 ans de cela, un homme qui étudie la médecine ne se sent pas épanoui et n'est pas complètement convaincu de ce qu'il apprend dans ses études et dans sa vie. Il est certain qu'une autre vérité et une autre vision des choses que celle que la société veut lui montrer existe. C'est en regardant les étoiles qu'il a une révélation. La lumière qu'elle renvoie lui fait prendre conscience que tout est lumière dans le monde. Il n'existe pas de vide dans l'univers et la lumière relie toutes choses et renferme toutes les clés de la vie. Il réalise qu'il fait partie d'un tout et que ce tout ne contient aucun vide car tout est lumière. Il comprend également que la matière agit comme un miroir sur la lumière en la réfléchissant. Mais parfois, notre vision est déformée par ce qu'il décrit d'une façon imagée, un écran de fumée en quelque sorte. Cela nous empêche de voir la seule réalité. Tout est amour et lumière. L'auteur explique également que l'homme songe en permanence. Il rêve la nuit certes, mais il rêve également à ses aspirations personnelles. Il nous explique que tous les humains nous ayant précédés ont également rêvé à grande échelle. Cette réflexion a abouti à la constitution d'une société avec ses règles, ses hiérarchies, ses notions de bien et de mal. C'est ce qu'il appelle le rêve de la planète. Ainsi, quand nous naissons, nous ne pensons pas par nous-mêmes. Nous appliquons et reproduisons simplement ce que nous apprennent les anciens, nos prédécesseurs. Ils nous transmettent les règles à intégrer, à respecter, la notion du bien et du mal et notre religion. Il fait par exemple remarquer que la religion ne se choisit que rarement. Elle dépend surtout de notre lieu de naissance et de la religion de ceux qui nous ont précédés. Ce sont donc les autres qui nous apprennent à penser. Car nous ne définissons jamais aucun de ces éléments par nous-mêmes. Les adultes transmettent aux enfants leur religion, leurs croyances, leurs coutumes et même leurs penchants politiques ou sociologiques. Grâce à l'importance que vous portez à ce que l'on vous transmet, vous adhérez presque machinalement à ce qui vous est transmis et enseigné. Vous ne remettez jamais, ou très peu, ces vérités en question. C'est ainsi que nous apprenons à nous comporter en société et à savoir ce qui est bien ou mal. L'auteur pense que nous n'avons jamais donné notre accord plein et réel à tous ces enseignements. Nous ne donnons jamais notre accord éclairé aux éléments de base de notre existence, comme la religion ou la langue parlée. Nous croyons ce que les adultes nous disent et grandissons ainsi. De plus, Miguel Ruiz explique que les adultes inculquent tout ceci aux enfants avec ce qu'il nomme un processus de domestication des humains. En effet, l'éducation est souvent basée sur un système où on alterne entre punition et récompense. Si nous faisons ce que les adultes attendent de nous, nous avons une récompense, même en tant qu'adulte au travail. Si vous atteignez les objectifs que votre patron vous demande, vous avez un bonus. A l'inverse, si nous ne répondons pas à leurs attentes, nous sommes punis. C'est finalement le même système que pour apprivoiser les animaux, d'où l'emploi du terme de domestication. Ainsi, par peur de la punition ou du rejet, nous nous conformons à ce que les autres attendent de nous, sans même nous demander si cela nous correspond ou est en accord avec notre propre personnalité. L'auteur pense même que la domestication exercée par les parents, puis ensuite par l'école et enfin par l'employeur, est tellement profonde et si peu remise en question que nous finissons par devenir notre propre dresseur avant de dresser aussi les autres. Or, la majorité des croyances qui nous sont apprises sont fausses. Mais nous avons peur de les remettre en question. Et cette peur engendre des sentiments négatifs tels que la jalousie ou la culpabilité. Selon Miguel Ruiz, si notre monde est si difficile à vivre, c'est parce qu'il est dominé et géré par la peur. Pour dissiper cette peur, il faut avoir le courage de chercher la vérité. Or, selon lui, la vérité est cachée par ce que le peuple toltèque appelle la mitote. La mitote, c'est l'ensemble de toutes les croyances qu'on vous a mises dans la tête à propos de vous et du monde. Cette mitote vous empêche de vous chercher, de savoir qui vous êtes vraiment. Ainsi, l'auteur pense que ce qui fait le plus peur dans la vie n'est pas le fait de mourir, mais le fait d'assumer ce que nous sommes et ce que nous voulons vraiment. Car, durant notre éducation, notre entourage et nous-mêmes fabriquons une image de ce que nous sommes. Mais est-ce ce que nous sommes vraiment, ou du moins ce que nous avons envie d'être? Nous nous efforçons de correspondre à cette image, voire d'atteindre une sorte d'idéal de perfection. Un idéal qui est souvent construit plus par les autres que par nous-mêmes. Dès que nous ne correspondons pas à ce que nous voulons être, nous nous rejetons et nous portons un déguisement que Miguel Ruiz appelle un masque social, pour ne pas nous montrer et nous dévoiler tels que nous sommes réellement. C'est alors vivre dans l'enfer, selon lui. Mais si la société nous impose ce regard et ces contraintes, le plus dur avec nous, c'est nous-mêmes. Car finalement, nous décidons d'intégrer ces contraintes sans rien changer. L'auteur explique qu'il est temps de remettre en question nos croyances et tout ce qui nous a été transmis, et surtout les injonctions que nous nous faisons à nous-mêmes. Pour vivre heureux, il faut rompre avec ses anciennes croyances et enfin oser devenir soi. Il faut changer les accords que nous avons conclus avec nous-mêmes. Pour nous aider à rompre ces accords et en mettre de nouveaux en place, plus sains et plus en adéquation avec nous-mêmes, l'auteur propose de nous aider à passer de nouveaux accords. Ces accords sont issus de la sagesse toltèque et ce sont les fameux 4 accords toltèques. Nous allons maintenant aborder plus en détail les 4 accords que nous propose l'auteur pour nous aider à mieux vivre notre vie. Le premier accord toltèque, que votre parole soit impeccable. Miguel Ruiz nous explique que ce premier accord est le plus important, mais aussi le plus difficile à mettre en œuvre. L'auteur nous explique que la parole est capitale dans les pactes que nous passons avec nous-mêmes. Elle est déterminante car c'est elle qui véhicule nos émotions et notre vision des choses. La parole a donc un pouvoir sur notre environnement et ceux qui nous entourent. Ce pouvoir, c'est celui de communiquer des choses positives ou au contraire négatives. Pour illustrer l'impact et le pouvoir incroyable de la parole, l'auteur prend l'exemple d'Hitler. Par sa seule parole lors de ses célèbres meetings, il est parvenu à faire adhérer à sa cause des milliers, voire des millions de personnes. Il a ainsi réussi, en partie, avec cette parole, à manipuler tout un peuple et à l'amener à devenir l'acteur de l'un des génocides les plus terribles de l'histoire. L'auteur nous montre donc que la parole peut générer dans les esprits de grandes choses positives, ou à l'inverse, destructrices, comme avec Hitler. Souvent, les paroles destructrices se répandent plus facilement que le reste. Une phrase peut créer une image négative de nous et nous laisser croire à cela toute notre vie. Par exemple, un professeur qui vous dira que vous êtes stupide sur un coup de tête car vous avez fait une erreur lors d'un examen peut vous mettre cette idée en tête tout le reste de votre vie. Voilà ce que l'auteur pense de la parole. Ensuite, l'auteur explique le mot « impeccable ». En latin, « un » signifie « sans » et « peccatus » signifie « péché ». Or, un péché, sorti de son contexte religieux, est une action que l'on exerce contre soi-même. Par conséquent, être impeccable, signifie ne rien faire contre soi. Ne rien faire contre soi veut dire ne pas juger, ne pas critiquer, ne pas blâmer ou médire. On utilise en effet souvent la parole pour critiquer son prochain, juger les attitudes ou la vie d'autrui. Cette mauvaise utilisation de la parole véhicule de la peur, de la colère et de la jalousie. Or, ces sentiments encouragent la haine entre les personnes ou leur auto-dépréciation. L'auteur prend l'exemple d'une mère de famille qui rentre le soir exténuée après une journée de travail harassant. Elle a un gros mal de tête. Dans le salon, sa fille chante 2 heures sa chanson préférée. Épuisée, la mère dit à sa fille « Tais-toi donc, tu as une voix horrible ». La petite fille va intérioriser et ne plus jamais chanter de sa vie, alors que sa mère ne pensait pas vraiment ce qu'elle a dit, elle était juste épuisée. Sa mère oubliera ce qu'elle a dit 5 minutes après l'avoir prononcé, mais la petite fille le portera toute sa vie comme quelque chose de honteux. Elle ne chantera plus jamais de manière libre et insouciante, car elle percevra dorénavant sa voix comme quelque chose de dérangeant et de désagréable. Combien de fois, nous demande l'auteur, avons-nous instillé dans l'esprit d'un proche des pensées négatives ou fausses, juste par une parole de trop, liées uniquement à la fatigue ou à l'exaspération? D'où l'intérêt capital de contrôler sa parole. L'auteur explique que la médisance est tellement répandue qu'elle diffuse dans la société une sorte de toxine qu'il appelle un poison émotionnel. C'est aussi ce que l'on peut appeler la rumeur. Il compare cela à un ordinateur infecté par un virus. Chaque fois que quelqu'un prononce une parole négative, cela répand un virus dans l'esprit de la personne qui l'entend, et cela finira par infecter tout entier, voire par le détruire. Pour adhérer au premier accord Toltec, il faut donc accepter d'éliminer toute phrase malveillante, dénigrante, haineuse ou simplement moralisatrice de sa parole. Il faut que notre parole soit saine et bienveillante pour transmettre à l'autre quelque chose de positif. Transmettre à autrui un message positif ou bienveillant, c'est éviter les conflits et l'exacerbation des haines. C'est mettre plus de sentiments et d'amour dans ses relations. Le deuxième accord Toltec, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Chaque parole proférée a un impact pour celui qui la reçoit. Quand on nous dit que nous sommes rayonnants aujourd'hui, ça nous met de bonne humeur. À l'inverse, si on nous dit que ce matin-là, nous faisons grise mine, cela va nous contrarier. Le fait que cela influence notre humeur ou notre perception de nous-mêmes est une manifestation d'égocentrisme, selon Miguel Ruiz. C'est en effet considérer que cela nous concerne, alors que la parole ne concerne que celui qui la profère. Si cela nous atteint, c'est parce que nous accordons trop d'importance à nous-mêmes. Nous faisons une affaire personnelle de ce qui nous est dit. Or, vous êtes responsable des paroles ou des humeurs des autres. Quand une personne vous dit quelque chose de peu sympathique, elle tente d'instiller son venin en vous. Si vous y attachez trop d'importance, alors vous deviendrez la cible de tous ceux qui ont besoin de déverser leur méchanceté pour vivre. Car le problème, ce n'est pas vous, mais ceux qui ont besoin de blesser par leurs paroles. Ils ont besoin d'être cruels ou médisants pour se sentir vivants ou supérieurs aux autres. Si vous faites une affaire personnelle de tout ce que l'on vous dit, vous tenterez de vous justifier, de vous défendre et d'avoir raison. Ce qui ne fera que donner de l'importance à une croyance qui, en réalité, n'est pas la vôtre. Or, que l'on vous dise que vous êtes formidable ou que l'on vous dise que vous êtes incompétent, cela ne doit pas vous impacter. Car vous devez rester le seul juge de vos défauts et de vos qualités, de vos valeurs. Si vous vous aimez, si vous connaissez vos défauts et vos qualités, si vous êtes satisfait de votre vie, rien ne doit vous atteindre. Si cela vous atteint, c'est que vous luttez encore avec vos propres blessures intérieures, avec vos propres doutes et vos propres peurs. L'auteur explique que même nos propres opinions sur nous-mêmes ne sont pas nécessairement vraies. Vous ne devez donc pas y réagir. Si un professeur vous a dit, durant votre scolarité, que vous n'étiez pas un matheux, vous l'avez peut-être intégré comme tel, alors que ce n'est pas vrai et que vous aviez probablement des capacités que vous n'avez pas développées justement parce qu'on vous a mis en tête que vous étiez mauvais dans ce domaine. L'auteur explique que notre esprit est envahi par des milliers de croyances que l'on nous a transmises au cours de notre vie, notamment lors de notre éducation et de notre évolution dans la société. Ce sont les fameuses mitotes qui sont dans notre tête et nous envahissent. Si nous sommes touchés par tout ce que l'on nous dit et qu'on le prend personnellement, l'auteur pense que nous sommes condamnés à souffrir inutilement. Il faut donc apprendre à ne rien prendre pour soi. Si cela ne nous atteint pas, cela ne nous affecte pas dans nos émotions et dans notre estime, et nous vivons bien plus heureux. Si on vous dit que vous êtes trop lent à faire quelque chose, cela est uniquement la perception de celui qui le dit, pas la vôtre. L'auteur nous conseille même d'inscrire ce second conseil sur un bout de papier et de le coller sur le frigo, pour ne pas l'oublier. Le troisième accord, ne faites pas de suppositions. L'auteur a analysé un problème fréquemment rencontré au cours de nos vies. Nous faisons constamment des suppositions que nous tenons pour vraies. Vous croisez, par exemple, une collègue que vous aimez bien à la machine à café. D'ordinaire, elle vous fait la bise et entame la discussion. Mais ce matin, elle vous adresse à peine la parole. Vous allez penser « Me fait-elle la tête ? Qu'ai-je fait pour qu'elle m'ignore ainsi ?» Vous supposez que son comportement est lié à vous. Or, elle a peut-être juste passé un très mauvais week-end et n'a strictement rien contre vous. Voilà comment, en faisant des conjectures, nous finissons par croire des vérités qui n'en sont pas et que nous avons créées de toutes pièces. Nous nous faisons inutilement du mal, sans raison. C'est la source de nombreux problèmes. Selon l'auteur, nous présumons que notre conjoint sait ce que nous voulons. Mais le lui avons-nous vraiment exprimé clairement ? Nous supposons que comme il nous connaît, il va deviner ou savoir ce dont nous avons réellement besoin, sans que nous ayons à lui dire. Et si, finalement, il ne fait pas ce que nous voulons, nous allons lui en tenir rigueur. Mais est-ce réellement sa faute ? N'est-ce pas plutôt la nôtre ? Si nous avions cessé de conjecturer et que nous avions exprimé clairement nos besoins, cela ne serait pas arrivé. Si nous faisions des suppositions, c'est surtout pour répondre aux questions que nous nous posons sans cesse. Le but est finalement de nous rassurer. Or, l'auteur nous propose, plutôt que de faire des hypothèses, pourquoi ne pas directement poser la question à la personne, pour dissiper tous vos doutes ? Pour reprendre l'exemple de la collègue de travail, pourquoi ne pas lui demander directement pourquoi elle a l'air si distante ? Ces suppositions créent aussi des problèmes dans nos relations intimes. Quand nous entamons une relation, nous ne voyons que les qualités de la personne. Puis, lorsque nous commençons à voir les défauts, nous supposons que l'amour que nous portons à l'autre modifiera ce défaut et qu'il disparaîtra. Mais l'auteur nous rappelle que c'est un leurre. L'amour ne fait changer personne. L'amour accueille l'autre tel qu'il est. S'il veut le changer, c'est qu'il n'aime pas vraiment et ou qu'il s'expose à de grandes déceptions. L'auteur nous donne le conseil radical suivant. Si vous voulez changer l'autre ou si l'autre veut vous changer, quittez-le. Ce sera difficile au début, mais vous n'en serez que plus heureux par la suite. C'est le seul moyen pour que les accords passés avec les autres et avec vous-même soient sains. Ainsi, le meilleur moyen de cesser de faire des suppositions est de poser la question le plus directement et le plus franchement possible. Chacun a le droit de vous répondre ou de ne pas le faire, mais il faut oser pour éliminer tous les doutes possibles et vivre sereinement. Vous voulez quelque chose ? Demandez-le. On vous dira oui ou non, mais au moins vous saurez à quoi vous en tenir et vous cesserez de ruminer vos suppositions. L'auteur nous promet qu'en communiquant ainsi, nos relations avec les autres changeront. Elles seront plus simples et plus vivables, plus limpides. L'auteur émet également un avertissement. Si vous avez compris ce message, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. L'essentiel est de mettre régulièrement cet accord en pratique pour que cela devienne une habitude et un nouveau mode de fonctionnement. Le quatrième accord Toltec, faites toujours de votre mieux. Le quatrième accord est intrinsèquement lié aux trois autres et consiste à faire de son mieux. Faire de son mieux en général, mais aussi faire de son mieux pour intégrer et appliquer les trois autres accords Toltec. Faire de son mieux ne veut pas dire être au maximum tout le temps. Si nous sommes fatigués, malades ou que la journée a été difficile, le mieux ne sera pas forcément le même que lorsque tout va bien. Il faut l'accepter et donner le meilleur de soi en fonction du moment. Rien ne sert de culpabiliser ou d'en faire trop, car cela va nous fatiguer inutilement. L'auteur nous dit de faire de notre mieux et nous serons toujours heureux. Mais il précise qu'il faut le faire par envie et non en attendant quelque chose en retour. Chaque jour, la majorité des gens vont au travail, non pas pour y faire de leur mieux et apprécier le temps passé à créer ou à imaginer, mais uniquement car ils attendent un salaire à la fin du mois. Or, si on aime ce que l'on fait sans penser à ce que l'on recevra en retour, on a pleinement satisfaction, on ne voit pas le temps passer et on ne ressent ni insatisfaction ni lassitude. Faire de son mieux, c'est gagner en respect et en estime de soi, mais c'est aussi porter un regard neutre sur ses actions, ses pensées, et sans les juger, apprendre à les améliorer chaque jour. Pour faire réellement de son mieux, il faut être dans le moment présent. Il faut donc savoir se libérer de son passé, ne pas chercher à connaître l'avenir, et uniquement se concentrer sur le moment que l'on est en train de vivre. Car le passé entrave, et le futur pétrifie. L'auteur explique qu'il faut également être dans l'action, car l'action, c'est la vie. Rester sur son canapé à regarder la télévision, en rêvant à la vie que l'on pourrait avoir, ne ferait jamais avancer. Il faut être dans l'action et faire de son mieux. C'est ainsi que l'on apprécie réellement la vie. Et si vous échouez, ce n'est pas grave. Au moins, vous aurez agi et vous pourrez être fier de vous. Il faut également être indulgent avec soi-même. Faire de son mieux ne signifie pas faire bien tout le temps. Cela signifie mettre en pratique chaque jour de nouveaux pactes passés avec soi-même pour tenter de vivre pleinement. Le but n'est pas d'être plus aimé par les autres. Le but, c'est de s'aimer tel que l'on est et d'aimer les autres. En pratiquant ces pactes chaque jour de votre mieux, ils deviendront des habitudes et des réflexes qui changeront votre vie. C'est la répétition qui fera que vous y parviendrez. Et si un jour, vous n'avez pas une parole impeccable, ce n'est pas grave, ne vous jugez pas, ne vous accablez pas et recommencez le lendemain. L'auteur nous dit que nous devons apprendre à nous aimer et à prendre soin de nous. La voie toltèque de la liberté, briser les vieux accords. L'auteur considère que la véritable liberté est celle de pouvoir vivre en étant soi-même sans se cacher derrière une façade. Nous cherchons trop souvent à accuser les autres d'entraver notre liberté. Nous pensons que c'est à cause d'eux que nous ne sommes pas libres. Or, c'est faux selon Miguel Ruiz. Pour lui, la seule personne qui entrave notre liberté, c'est nous-mêmes. Il prend l'exemple d'un enfant de 2 ou 3 ans. L'enfant de cet âge n'a pas encore été totalement domestiqué, selon ses termes. C'est pour cela qu'il est totalement heureux, car il vit pour la seule satisfaction de ses besoins. Dormir, manger, jouer, être câliné. Il explore tout, car il n'a pas de notion de danger ou de peur. Il vit en osmose et en accord total avec le moment présent, car il n'a aucune notion du passé, qui pourrait le rendre triste, ni de l'avenir, qui pourrait l'angoisser ou lui mettre la pression. Du coup, l'auteur se demande ce qu'il se passe entre le moment où nous sommes enfants et l'âge adulte. Pourquoi perdons-nous cette liberté? La réponse est simple, selon Miguel Ruiz. C'est parce qu'entre-temps, nous avons été dressés par les autres qui nous ont transmis tout un système de croyances qui sont les leurs et pas forcément les nôtres. Petit à petit, nous avons laissé l'enfant en nous, notre vrai moi, se cacher ou se transformer pour faire en sorte qu'il corresponde à ce que l'on attendait de nous. C'est la raison pour laquelle, pour retrouver liberté et bonheur, nous allons aller chercher l'enfant qui est en nous, en brisant tout ce que l'on a pu nous inculquer auparavant. La première étape consiste à en prendre conscience. Être lucide sur le fait que nous ne sommes pas véritablement libres est la première étape, puisque c'est ce qui va nous amener à chercher des solutions. Les Toltecs nous apprennent que, pour être libre, il faut rompre avec ses anciennes certitudes et vivre en sage. Il faut vivre en accord avec soi-même, et non avec un maître qui penserait et rêverait à notre place. Pour parvenir à atteindre cette sagesse toltèque, il y a 3 compétences à acquérir. Premièrement, la capacité à déterminer qui nous sommes vraiment, à cerner nos qualités et nos défauts, réels et non supposés. Deuxièmement, la capacité à briser nos anciennes croyances pour nous libérer du processus de domestication. Troisièmement, la capacité à maîtriser notre énergie, nos émotions. Nous sommes de véritables appareils à émotions. Or, les Toltecs pensent que tout ce qui nous parasite et engendre nos peurs se réfugie justement dans nos émotions. Pour livrer cette bataille aux émotions, il y a plusieurs solutions. La première consiste à combattre chacune des peurs, une par une. La seconde démarche consiste à cesser de nourrir la peur en contrôlant ses émotions. La troisième est ce qu'il appelle l'initiation de la mort. C'est évidemment une mort symbolique qui n'est que spirituelle et évidemment pas physique. Pour mieux nous transformer, l'auteur explique que nous devons prendre conscience de nos peurs et de ce qui obscurcit notre esprit. Il faut cibler les croyances qui ne nous conviennent pas, pour les abolir ou les remplacer par d'autres. Pour cela, vous pouvez lister sur une feuille toutes les croyances qui vous freinent ou qui vous limitent. Petit à petit, vous devez briser chacune de ces croyances limitantes pour les remplacer par un accord qui vous rend heureux. Ce processus est long, mais vous devez vous y tenir et persévérer. L'auteur établit un parallèle avec un toxicomane. Vous avez été pendant longtemps sous le joug de ces croyances négatives et il vous faudra du temps, des répétitions et de la persévérance pour vous en libérer totalement. C'est pénible, mais nécessaire à votre survie émotionnelle. Pour tenir la distance et le choc de cette transformation, il faudra beaucoup de discipline, selon Miguel Ruiz. Nous nous réveillons chaque jour avec une certaine dose d'énergie qui est souvent absorbée par nos émotions, surtout par les émotions négatives. Pour que cette émotion dure toute la journée et soit utilisée pour combattre nos croyances négatives, il faut la préserver. Or, ce sont les émotions négatives qui la mangent. Il va donc falloir apprendre à contrôler nos émotions pour qu'elles ne nous impactent plus. L'auteur explique que pour conserver son énergie, il faut pardonner. Pourquoi ? Parce que si nous sommes habités par la colère, la tristesse ou la haine de ce que les gens ont fait, nous brûlons inutilement de l'énergie au lieu de l'utiliser à nous faire du bien. Pardonner nous libérera et nous permettra de nous accepter plus facilement tels que nous sommes. Le guerrier toltèque est un guerrier de l'esprit, mais il a conscience de son état, il contrôle ses émotions, il pardonne et il a une grande discipline. L'auteur développe ensuite un peu plus ce qu'il décrivait précédemment comme l'initiation de la mort. Pour résumer, si nous avons conscience que chaque journée peut potentiellement être la dernière, nous adoptons un autre comportement. Vous n'allez pas vous soucier du regard des autres pendant cette dernière journée. Vous serez entièrement vous-même et vous profiterez à fond. En fait, c'est ainsi que devraient être tous les jours de notre vie. Par exemple, il faut exprimer son amour à ceux que l'on aime, car si on meurt ce soir, on n'aura aucun regret et nos proches sauront à quel point ils ont été aimés. Il développe ce thème probablement parce que c'est la leçon qu'il a retirée de son expérience de mort imminente. Dans le dernier chapitre de son ouvrage, intitulé « Le nouveau rêve, le paradis sur terre », l'auteur nous invite à nous déconditionner totalement pour vivre une nouvelle vie. Une nouvelle vie que nous inventerions à la seule force de notre esprit et de notre imagination. Il nous encourage à laisser notre esprit imaginer cette nouvelle vie que nous voudrions vivre et imaginer quoi faire pour la vivre enfin. L'auteur nous rappelle que nous avons en nous la possibilité de vivre sans peur, sans crainte, sans jugement. Tout cela grâce à l'amour que nous donnons et que nous recevons. L'auteur nous dit que le bonheur est un choix. À partir du moment où nous choisissons d'être heureux, tout peut changer. Et ce changement vient de nous et est en nous. Il termine par des prières à l'amour et à la liberté. Ces prières nous invitent à une sorte d'état de méditation, ressentir sa respiration et à quel point le fait de simplement respirer calmement et sereinement nous rend heureux et vivants. C'est finalement, selon l'auteur, tout ce dont nous avons besoin, nous sentir vivants et heureux. Les points à retenir. Ne soyez pas un humain dressé. Vivez votre vie, pas celle que les autres voudraient que vous viviez. Vous êtes vraiment libre en réalité. Ne dites pas de mal ni de vous ni des autres. N'accordez pas d'importance particulière aux paroles des autres. Leurs paroles sont leurs paroles, leurs idées sont leurs idées. Vous n'avez rien à voir avec ça. Si vous avez un doute, posez simplement la question. Ne supposez rien. Faites de votre mieux en fonction des circonstances du moment. Ne vous mettez pas de pression inutile. Soyez heureux de faire ce que vous faites pour le simple plaisir de le faire.